On accueille Francis maintenant au 39-21. Bonsoir Francis.
Oui, bonsoir Olivier. Bah, écoutez, déjà merci de votre émission parce que c'est super sympa d'écouter et puis de dire les choses comme elles sont, quoi. C'est pour ça que je me permets de vous appeler et je sais que ce que je vais vous raconter, il y en aura beaucoup qui vont descendre de tout ça parce que les agressions, je parle de ma petite fille qui a eu une agression en 2016, hein, oui. Elle avait 6 ans,
par
un voisin, par un voisin qui avait 22 mètres, enfin, qui est à 22 mètres. Donc ça s'est passé le 6 juillet 2016, donc il était 14h30 à peu près, quoi. Donc il faut savoir que ma fille jouait avec sa gamine. Donc voilà, donc je pensais que ben, elle allait jouer avec sa gamine et puis allez, un quart d'heure, 20 minutes après, elle revient à la maison en pleurant, je dis pas l'état de la gamine, quoi. Il m'a touché, il m'a mis la main dans la culotte, je dis qu'est-ce que tu me racontes, quoi. J'étais à la maison, je dis qu'est-ce que tu me racontes. Je vous dis, c'est un film. Donc, mais j'écoute, mets-toi assis, mets-toi sur le canapé, mais raconte-moi de ce qui se passait. Je pensais que tu jouais. Non, il m'a chopé dans le couloir, il m'a mis dans la culotte, il m'a léché le visage. Je dis qu'est-ce que tu me racontes. Mais bon, j'ai ma femme en même temps qui était partie en course avec les deux enfants. Il faut savoir bon, il y a 3 enfants, ma femme et moi. Donc je téléphone à ma femme, elle était en course. J'écoute, il y a un problème avec Emma, elle était chez le voisin, il l'a chopé. Il lui a mis la main dans la culotte. Appelle au commissariat, donc voilà quoi. Donc j'explique à Emma, j'écoute, on va se calmer, tu vas me répéter la même chose. Donc elle me dit toujours la même chose. Donc j'appelle le commissaire de Meurthe-et-Moselle. Je lui explique quand même, il dit, écoutez, monsieur, oui, pas venir lundi. Je dis, non, mais vous rigolez, je viens pas lundi, c'est pour une agression sexuelle, quoi, entre guillemets, quoi. Puis à un moment, donc, je pose le téléphone, je prépare ma gamine, et ma gamine, on sort de chez moi, et elle me dit, papa, elle me prend la main, viens voir, faut que je te montre quelque chose. Je prends la gamine, je prends la gamine, et puis je vais jusque chez le voisin, juste au début de la boîte aux lettres. Il y avait de l'argent sur la boîte aux lettres. Mais je dis, mais c'est quoi ça, Emma? Puis elle me dit, mais écoute, il ne faut pas que je le dise, mais il m'a dit dans l'oreille, je te donne de l'argent, mais tu ne le dis pas à ton papa. C'était posé sur la boîte aux lettres, il y avait 1,96€. Donc,
1,96€.
Ouais, pour son silence.
Eh ben.
Mais je vous jure que c'est vrai. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre pas, je dis, Emma, tu prends l'argent. C'était dans une enveloppe, je dis, tu montes dans la voiture. Je vais directement au commissariat de police, donc j'ai été reçu directement. Donc Emma a raconté ses versions, donc elle a été voir un OPJ, et moi de l'autre côté, je vous dis, je vous croirais dans un film, c'est un cauchemar. Je dis, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Donc l'OPJ me demande, mais vous connaissez ce voisin? Donc ma fille était de l'autre côté. Donc je dis non. Je l'ai connu simplement par rapport à... Parce qu'il faut savoir que monsieur était non-voyant, donc sa femme m'avait demandé de nettoyer le jardin. Ça faisait 1 mois et demi, 2 mois qu'il était là. Donc il jouait avec ma gamine. Et puis non, je ne connais pas du tout son nom, pas du tout. Je téléphone à ma femme, j'ai dit, écoutez, vous connaissez le nom? Elle me dit, non, je ne connais pas. Donc je téléphone à la voisine en même temps, j'ai dit, écoutez, tu connais le nom? Donc voilà, quoi. Donc ça a duré pendant 1h30, 2 heures. Et puis finalement... sorti entre guillemets de ce bureau, entre guillemets, mais c'est un enfer, vous pouvez pas croire que c'est un enfer, mais c'est la réalité, je vous dis franchement, c'est la réalité pour tout le monde. Donc, j'en tremble déjà. Donc, il me dit, écoutez, vous allez chercher des affaires pour la gamine, parce que la police scientifique va prendre les fringues. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, je téléphone à ma femme, j'écoute à la maison, hein, bah, écoute, il faut que j'aille chercher des affaires propres, parce que la police scientifique va prendre les vêtements pour les tests, quoi, d'ADN, hein, les tests scientifiques, quoi. Donc, j'y vais, donc, je retourne à la maison, et puis dans ma tête, je dis, mais pourquoi qu'il m'a laissé tout seul là-bas? Parce que je voulais le démonter, je lui dis, franchement, je vais lui casser la tête, mais quelque chose de propre. Et puis ma femme m'a retenu, elle dit, non, Francis, fais pas con, ok, puis j'avais les larmes, je dis, mais qu'est-ce qui arrive, quoi? Je prends les affaires, donc je retourne au commissariat. J'écoutais, j'allais failli casser la tête. J'ai dit, mais comment ça se fait que vous m'avez été amené là-bas? Parce que, bon, ouais, mais c'est pas l'effet par surprise. Maintenant, on va aller le cueillir. Je retéléphone à ma femme, parce que moi, j'étais toujours commissaire de police. Et je lui dis, écoute, tu fermes les volets, parce que là, on connaît ces gens-là, entre guillemets, c'est des cinglés. J'ai dit, tu fermes les volets, tu protèges les enfants, ils vont venir le chercher. Donc, ils sont venus chercher à 4 ou à 5, quoi. Mais il faut savoir aussi que cette personne est assez âgée, comme on dit, donc il a des séquelles au niveau de voyance, donc soi-disant qu'il ne voit pas. Donc, enfin, je vous raconterai après, quoi. Donc, il va le chercher, donc il gueulait comme un veau, apparemment. Donc, voilà, quoi. Donc, il arrive au commissariat de police, nous, on était de l'autre côté, et puis Emma était discuter avec la secrétaire, et puis j'ai dit à ma fille, écoute, je suis fier de toi, de ce que tu as fait, quoi, parce que bon, c'est pas évident, une gamine de 8 ans qui dise au papa, ben voilà. Donc, le monsieur est entendu, donc, et puis il gueulait comme un veau, hein. Donc, ma fille, elle en avait peur, elle pleurait, papa, j'ai dit non, t'inquiète pas, ça va aller, et tout ça, quoi. Donc, il lui pose des questions, et puis moi, de mon côté, on m'avait dit, écoutez, monsieur Francis, il faut aller voir un peu plus loin au service crime, voir s'il n'y a pas eu grand-chose plus loin, quoi. Et à un moment, il me dit, mais je lui demande, mais pourquoi qu'il crie? Il m'a dit, écoutez, monsieur Francis, il y a le problème, c'est que il veut pas faire le refus, il peut refuser tes ADN. J'ai dit, pardon? Ben, le monsieur, il peut refuser tes ADN, il n'est pas obligé de le faire. Écoutez, c'est la loi. Alors là, je suis tombé sur le cul. Hein. Ben, j'ai écouté, bon, ben voilà, donc il a été auditionné. Moi, je suis parti de l'autre côté à la maison. Et puis, ma femme était là, on est ben, tous en pleurant. Hein, donc voilà, qu'est-ce qui se passe? La gamine qui souffrait, j'écoute, on va se barrer de là. Et on est sorti de la maison, quoi. J'ai pris mon verre, j'écoute, fais pas le con, entre guillemets. Reste à ta place, parce qu'il est assez virulent. Et j'écoute, reste là, et voilà, quoi.
Donc, qui était virulent, l'agresseur?
Mon beau-père, quoi.
Ah oui.
Il serait. J'ai resté là, donc l'explication, j'écoutais, nous on s'en va, et on lui a expliqué le quoi. Donc on est parti de là, on est parti manger, et puis ma femme me posait question.
Et là, à ce moment-là, Emma, elle a été entendue, hein, bien évidemment.
Oui, elle a été entendue. Ouais.
Alors, Francis, on va marquer une petite pause.
Oui.
Et puis on se repart dans quelques secondes, d'accord?
Pas de souci, merci à vous.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Il est 23h29 sur Europe 1. Vous êtes sur votre libre antenne et vous pouvez composer le 39 21. Francis, donc la garde à vue, il est en garde à vue l'agresseur à un moment ou...
Oui, il est en garde à vue. Il est en garde à vue à partir du 17h et à 21h, 22h, il était déjà sorti. Pour vous dire.
C'est incroyable.
Ouais. Mais je vous dis, je vous racontais l'histoire, elle est folle. Donc le lendemain, donc je vous dis, on est sorti.
Dans quel état était Emma, en fait?
Emma, si vous voulez, le 6 juillet 2016, ça a été un cauchemar. C'était une petite fille qui était souriante, qui était agréable, qui était intelligente, tout ce que vous voulez. Là, c'est une enfant qu'il faut remonter. C'est comme un bébé qui vous apprenez à marcher. Et ben, l'enfant, c'est pareil. Depuis qu'il y a eu cette agression sexuelle, entre guillemets, hein, donc ça a été un calvaire pour elle. Et tout le reste, là où je n'ai pas fini encore, de tout ce que je vais raconter. Donc finalement, le 7 juillet, donc, on était à Nancy, au service crime, hein, pour voir s'il n'avait pas été plus loin. À Nancy, donc, vous voyez un monument, c'est incroyable, c'est des immeubles de grande hauteur, comme on dit, mais c'est la souffrance totale quand on voit les gens qui sont là-dedans, mais... J'espère qu'ils vont se renseigner et qui arriveront à se faire entendre quoi, par les médecins, tout ça. Quoi. Donc, on a évité le matin vers 9h, on est sorti à 11h. Donc, on n'avait pas les résultats de tout ça, finalement. Donc, finalement, donc, on a laissé un peu de temps, mais il faut savoir que ce voisin est toujours à 22 mètres de chez nous. Je ne dis pas le calvaire tous les jours, des menaces et tout ça. Enfin, bref, je vais raconter. Et finalement, j'ai dit à ma femme, écoute, il faut qu'on écrive au procureur de tout ça et voir son ancienne adresse. Et moi, si je me suis dit dans ma tête, s'il a déjà fait là, il a déjà fait ailleurs. Donc, on a écrit au procureur. Et moi, de côté, ma femme a cherché tout ce qui était adresse là où il était. Donc, on avait su son adresse et moi, j'étais sur le terrain pendant un mois. Donc, j'ai cherché tout ça et j'en ai bavé, je vous dis. Hein. Et finalement, je suis tombé sur des gens qui connaissaient ces personnes et par rapport aussi à la mairie, parce que la mairie avait connu ces agissements-là, pour vous dire, quoi. Donc, au mois d'août...
La mairie était au courant de ce qui s'était passé,
oui, c'est ça, oui, 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 oui. Donc, c'était pas la seule occasion qu'il avait fait, quoi, que la seule saloperie qu'il avait fait, quoi. Donc, une fois mon enquête, au mois d'août 2016, quand j'ai fait mon enquête, Donc j'avais plus de nouvelles du commissaire de police de ce qu'il en était, quoi. Donc je suis retourné au mois d'août voir le commissaire à l'OPJ. Je lui dis, voilà, qu'est-ce qu'il en est de l'enquête. Il m'a dit, écoutez, vous savez que les tests d'ADN, il veut pas les faire, donc il a le droit de refuser. Enfin bref, voilà quoi. Mais il est condamnable, et voilà quoi. C'est comme, voilà quoi. Mais j'ai écouté, moi, c'est clair. Il me dit, mais je lui demande, mais l'enquête, il n'y a pas d'enquête. Ben non, on a été auditionné. Maintenant, on entend les tests d'ADN. Parce que je dis, s'il n'y a pas de test d'ADN dans le pantalon, dans la culotte, dans la chemise, le procureur, ça s'est classé sans suite. Je connais les histoires, hein, voilà quoi. Elle me dit, oui, mais il faut pas voir comme ça. Et à un moment, je lui pose la question, j'ai écouté, monsieur, vous me demandez le nom du monsieur, je le sais pas, mais maintenant je le sais. Et je lui pose la question, j'ai écouté, monsieur, est-ce que vous avez un cousin qui travaille au commissariat de police? Il me dit, comment ça, monsieur? Ou un frère? Ou un anonyme? Je dis, comment ça, monsieur? Ben, j'ai écouté, moi j'ai fait mon enquête, voilà mon dossier. Et je lui sors d'une main courante, écrit par lui, qui avait été signé, qu'il était déjà connu au service de police depuis 2012, par des menaces de mort et par rapport aux agressions sur des gamines. Mmh. Et cette affaire-là a été classée sans suite. Là, il est tombé sur le cul. Je dis, mais vous savez, vous avez eu ça. Écoutez, vous faites votre boulot, mais moi, je vais faire le mien. Parce qu'entre dire, auditionner les gens et pas faire une enquête extérieure, ça peut pas aller. Moi, mon enquête, elle est faite. J'ai 12 personnes qui se sont plaintes de cette personne-là. Vous ne les avez jamais reçus parce qu'ils devaient attendre des convocations. Alors je dis, maintenant, moi, je vais écrire à M. François Hollande, mais ça va bouger. OK. Donc l'affaire, entre guillemets, bon, les mois passent, et à un moment, Emma ne fonctionnait plus du tout. Ne s'alimentait pas, ne se lavait pas. La classe, des écoles, c'était terrible. J'ai dû changer aussi mes horaires. Novembre 2016, Emma se fait hospitaliser. Perdu du poids, ne mangeait plus. Elle avait le ventre ballonné, pour vous dire. Donc, je dis, enfin bref, j'en pleure des fois, mais bon. C'est comme une fille qui était enceinte, pour vous dire. Ouais. Donc, je l'emmène pas loin de chez moi, du côté de Briey. Donc, je lui explique le cas. Et puis, il me dit, écoutez, c'est bizarre, les scènes ne viennent pas. J'écoutais, c'est dû à l'agression. Vous savez le cheminement, parce que j'avais été la première fois chez vous, vous n'avez pas pu l'apprendre parce qu'elle était mineure, donc j'étais à Nancy. Et il ne croyait pas. Donc on a dû l'hospitaliser le jour même, le soir. Donc je suis resté avec elle. Je ne vous dis pas la nuit, le calvaire. Je ne vous dis pas le calvaire. Elle le vomissait de partout. Et ils avaient fait des examens. Mais il faut savoir qu'il fallait passer un scanner. Et le scanner, là où on était, il n'y avait pas. Donc c'était du côté, il fallait faire 30 bornes. J'ai dit, purée, mais ils ne pouvaient pas passer le scanner ailleurs, quoi. Donc finalement, une nuit terrible, quoi. Et à un moment, il y a le médecin interne, il me dit, mais Francis, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'écoute, je suis venu il n'y a pas longtemps. Je sais, c'est par rapport à ça. Et le médecin interne qui avait ausculté, pris en charge Emma, ne le croyait pas. J'écoute, il faut pas se foutre de ma gueule, je connais ma gueule. Je sais ce qui s'est passé. Donc, la nuit d'enfer. Le lendemain, elle passe un scanner, et finalement, il fallait donner d'urgence à Nancy, au CHU de Nancy. Mais le problème, c'est que, bon, c'était une ambulance avec des hommes. Ma fille ne montait pas dans cette ambulance-là, donc j'ai dû appeler ma femme pour qu'elle l'accompagne. Je ne dis pas le calvaire. On est arrivé à Nancy. J'ai dit, ça y est, je vais perdre ma gamine. Donc déjà, une, elle n'avait pas dormi. Elle vomissait du haut jusqu'en bas. Et finalement, ils ont su que c'était, si vous voulez, les intestins. Ils appellent ça une ablation.
Oui.
Donc c'est des intestins qui se retournent par rapport à l'agression sexuelle, par rapport à un événement dramatique et trucs comme ça. Mais quand je suis allé à Nancy, je n'avais pas de dossier. Donc, je ne savais pas où c'est qu'on allait. Donc, le professeur venait au bout de 2 heures voir Emma. Il m'a dit, écoutez, je n'ai pas de dossier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai dit, écoutez, moi, j'ai aucun dossier. Déjà, je devais passer un scanner. Donc, j'ai attendu le lendemain. Donc, ça avait déjà ronflé. Donc, il a dit, écoutez, madame, monsieur, vous sortez de là. J'en pleurais. Et puis, finalement, j'ai su qu'ils avaient été chercher une sonde de 40 cm et qu'ils l'avaient sondée au niveau de l'anus. C'est comme si un ballon, il était trop gonflé. Et vous le dégonflez. Pour vous dire. Donc, Emma a été hospitalisée pendant 2 mois, sans manger, donc perf et tout ça. Donc, j'ai dû changer mes horaires. Hein, c'était en 2016. Et ma femme a gardé les 2 enfants. Le boulot, donc, je faisais du 19h-7h, ma femme faisait du 9h-16. Et tous les jours, pratiquement, j'allais à Nancy où je dormais là-bas. Je ne vous dis pas le calvaire. Après, on se posait des questions par rapport au médecin, par rapport à la gamine, parce que bon, elle s'est fait suivre psychologiquement. Donc, j'ai mis en place tout ce qui était assistentiel et puis tout ce qui était réseaux sociaux qui m'ont pas entendu. Tout ça, c'était une détresse forte, forte, mais incroyable, quoi. Mais on n'était pas assez entendu. Donc, finalement, donc, Emma est hospitalisée, donc, en décembre 2016. 42 cm d'intestin en moins. 6h30 de bloc. Boum.
La pauvre.
Et il faut savoir s'il fallait mettre une poche. Alors, une mise à jumée, une gamine avec une poche à l'école, c'est terrible. Donc, finalement, donc, il y a 6h30 de bloc. Donc, voilà, donc, elle est sortie. Ça s'est bien passé. Décembre 2016, toujours pareil, on reçoit les tests d'ADN. Les tests d'ADN des vêtements, comme quoi c'était, il y avait des traces masculines. Mais il y avait un gros problème. On pouvait dire que c'était moi. Donc il fallait que je passe aussi tests d'ADN. Alors vous n'avez pas compte la colère à l'hôpital de Nancy, comme quoi monsieur refusait tests d'ADN. Moi, je dois passer tests d'ADN, soi-disant au niveau de la justice, pour écarter toute culpabilité,
tout
comme on dit.
Tout suspect, voilà. Ouais.
Et voilà. Donc là, je m'y fous, quoi. Et l'inspecteur m'a dit, écoutez, vous allez le faire. Mais j'ai dit, c'est sûr, s'il faut donner tout mon corps, je donnerai mon corps. Donc le 2016, donc fin 2016, donc j'étais au commissariat de police, donc mon prix était ADN, il n'y a pas de souci. Emma était toujours à l'hôpital. Donc voilà, quoi. Donc février 2017, on arrive en février 2016, retour des tests, c'est pas les miennes. C'est formidable, c'est pas les miennes, donc c'est bien quelqu'un. 28 février, la police se présente chez l'agresseur, puisque donc il y a une ordonnance du juge d'instruction, comme quoi il avait refusé déjà 3 fois les tests d'ADN. Moi de mon côté, donc c'était pas moi, donc ils lui ont fait les prélèvements. Le 7 juin...
Sans lui demander son avis, là, pour le
coup. Ah non, là, il y a une ordonnance juste sans action. Donc, voilà, bon, là, il y a tes ADN. Maintenant, il y a une ordonnance juste sans action, c'est soit tu te fies à ce qu'on te dit, autrement, c'est le newf. OK. Donc, il a fait tes ADN. Mm-hmm. Le 7 juin, donc, il y a le retour de l'ADN, donc, c'est bien ses traces.
Oh là là.
Voilà. Mais il y avait un petit problème aussi.
Oui, c'est attendez, bien lui, l'agresseur.
Oui, mais le problème, c'est qu'il pouvait jouer l'ADN sur son fils. Comme ils sont à peu près, c'est la même alignée.
Oui, d'accord.
Donc, rebelote, on recommence. Et en juillet 2016, depuis juillet 2016, et là, on est en juillet, juin 2017.
Oui.
Juillet, la personne est entendue au commissariat de police, le matin. Donc voilà, donc il y a son avocat et tout ça. Il m'appelle le jour-là, bah, écoutez, il faudrait qu'on entende Emma par rapport à la version de tout ce qu'elle a dit et tout ça. Je dis, il n'y a pas de souci. Je vais au commissariat de police avec Emma, il me dit, où est le gaillard? Bah écoutez, il est chez médecin, il est sur temps. Bah, je lui dis, bah, c'est son droit, voilà quoi, pas de souci. Donc on parle de cette affaire-là, il me dit, écoutez, il a été auditionné. Et à un moment, il me dit, écoutez, monsieur, vous pouvez partir de là et on va auditionner. Emma, je dis, non, je reste là.
Bah oui.
Voilà. Et à un moment, il lui pose la question. Bon, Emma, le 6 juillet 2016, c'était le matin, c'était pas l'après-midi. Tu as joué le matin avec la gamine. Non, tu as joué le matin, oui, ça veut dire tu as été ce matin. Et Emma, elle disait, ben non, c'était l'après-midi et tout ça et tout ça. Et puis je laissais passer Emma. Et à un moment, je me suis levé, j'écoutais, monsieur, je dis, l'affaire, elle date depuis 2016. Apparemment, ça a été visionné, parce que j'ai oublié de vous dire ça, normalement, c'est de visionner, mais ça ne fonctionnait pas. Voilà, déjà. Hein.
Donc, les caméras de la ville.
Non, par rapport au commissariat de police. Parce que normalement, ma fille devait être visionnée, et ça, apparemment, ça n'a pas fonctionné, de ce que j'ai su.
Oui.
Alors, depuis 2016, monsieur J, vous auditionnez ma gamine, donc apparemment, le visionnage n'a pas fonctionné, donc vous avez les rapports de tout ce qu'elle a dit, et au bout d'un an, vous lui demandez si c'est vraiment elle la coupable. Je vais vous poser la question, monsieur J. Parce que là, vous dites que c'est une affirmation. Vous ne lui posez pas la question, est-ce que tu as joué mercredi, le matin? C'est tu as joué. Et les mots, c'est pas les mêmes au tribunal. Parce que les procès-verbaux, ils vont les regarder au tribunal. Alors je dis, monsieur, je dis, l'année dernière, au mois de juillet, vous étiez habillé comment, je dis. Je dis, comment ça, monsieur? Ben, écoutez, moi, vous demandez ma gamine qui a 8 ans. Depuis un an, vous lui posez des questions, mais le rapport de police, il a été fait. Alors donc, vous doutez de la parole de ma gamine. Ok. Donc finalement, donc voilà. Et finalement, donc on a reçu l'avis aux victimes par le procureur. C'était déjà une bonne chose. Mais il faut savoir que le coupable est toujours à 22 mètres de chez nous. Et toujours le calvaire. 5 décembre 2017, on va au tribunal. Mais il faut savoir que aller au tribunal, en tant que victime, il faut un avocat. Et c'est pour ça que toutes ces victimes qui ont courage de dire les choses, et je vous le dirai à la fin, tout en conclusion, c'est qu'il faut payer en tant que victime. Vous avez deux SMIG, vous n'avez pas d'aide juridique totale. Et il faut savoir de prendre un avocat qui, comment dire ça, dans ce lieu d'agression sexuelle. Il y a des avocats pour les divorces, il y a des avocats pour ça, il faut savoir ça. Mais moi, j'ai eu la chance, entre oui et non, en tant que bonheur, par rapport aux assurances, parce que j'avais deux assurances, Crédit Agricole ou la Massif, et la Massif m'a pris en charge. Mais il faut savoir que la Massif donne des barèmes à ses avocats. Donc il avait un barème, donc il travaille pour temps. Et demain, vous êtes en tant que privé, vous prenez un avocat, vous payez plein pot. C'est ça le problème. Donc le 5 décembre 2017, on va au tribunal. Le monsieur était là et on avait demandé huis clos. Donc il faut savoir que monsieur, il est soi-disant non-voyant, il est sourd, il est étranger, il ne parle pas la langue et tout ça, quoi. Bon, bref. Donc on lui avait posé des questions à ce monsieur de ce qui s'était passé. Là, vous pouvez vous mettre assis. Hein. Donc Emma est venue à poil chez lui. Je mets ma gamine à poil pour chez lui. Après, elle a sauté du trampoline, la culotte était tombée. Il faut savoir que monsieur est non-voyant. Hein.
Oui.
Après, elle a joué avec sa culotte, elle lui a donné. Mais des versions incroyables.
Incroyable.
Et il faut savoir que tous ces témoignages que j'avais aussi, ces 14 témoignages, que mon avocat, au début, ne voulait pas les donner. Donc, j'avais écrit au procureur de tout ce dossier, de tout ce que j'avais, comme quoi c'était important de donner ces éléments-là, mais mon avocat ne voulait pas le faire. Et finalement, ça s'est arrangé, vous voyez. Donc, si vous voulez, moi, de tout ce que j'ai fait par rapport à l'enquête, c'est moi qui l'ai fait, je vais donner tous les éléments. Par rapport aux témoignages que j'ai cherchés, par rapport aux éléments que j'ai eus, j'ai donné le dossier, j'ai dit, bon, voilà, le dossier, il est là, il est complet. Mais il fallait prendre ces fiches pour montrer au procureur. Mais moi, j'avais fait des photocopies de tout ce que j'avais. Donc finalement, la personne a été condamnée en correctionnel à 5 ans de mise à l'épreuve. C'est ça, hein. Ouais, 5 ans de mise à l'épreuve. Et fichier aux délinquants sexuels.
Oui.
Et à un moment, je me lève, écoutez, il y a des choses qui ne volent pas. Mais non, c'est bon. Mais ils n'ont rien compris au dossier. Je suis à 22 mètres du gaillard. J'ai dit, mais on est face à face, mais il va l'emmerder tous les jours. Donc, je retourne, l'affaire est terminée. J'en parle avec les avocats et tout ça. J'ai écouté des choses qu'il ne voit pas. Hein. Donc, le monsieur fait appel. Il va faire appel. Et il faut savoir que ces tribunaux, entre guillemets, c'est comme le Monopoly. Vous allez en correctionnel, vous allez en appel, vous allez en cassation,
oui, oui.
Vous allez aux droits de l'homme, et les victimes y payent. Eh oui. Et le monsieur à côté,
ça s'arrête en cassation.
Une fois, on peut aller aux droits de l'homme. Hein.
Oui, mais les droits de l'homme, c'est le tribunal européen de Strasbourg. C'est,
oui.
Bon,
oui.
Mais la condamnation pour la France, elle s'arrête en cassation.
Oui.
On va s'arrêter là, Francis, on fait une petite pause et puis on se retrouve tout de suite.
Pas de soucis, merci à vous, hein, Olivier.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Il est 23h46 sur Europe 1 et c'est la Libre Antenne qui continue. Francis, il fait appel et ensuite il va en cassation.
Alors si vous voulez, je vais vous expliquer. Donc il fait appel. Il faut savoir que l'appel, donc, ça peut durer de 24 à 36 mois. Il y a ils ont tellement de boulot, ça manque de personnel et tout ça.
D'accord, donc il n'est pas emprisonné.
Non. Il a simplement eu une condamnation, donc, et puis un an avec sursis et 5 ans de mise à l'épreuve et tout ce qu'il a eu. Donc voilà quoi. Mais il était toujours à 22 mètres de chez moi. Et moi, j'étais pas d'accord quoi. Donc quand il a fait l'appel, donc, il fallait que j'attende 24 à 36 mois. Donc c'était en avril 2018. J'ai entamé une grève de la faim à la mairie de Gerny. Donc j'avais prévenu tous ces gens-là. J'avais fait du courrier au procureur. J'avais prévenu la mairie. J'avais prévenu les prisons de la République. J'ai prévenu tout ça et finalement, j'ai aucune réponse de leur part. Donc j'ai fait une grève de la faim pendant 4 jours. La première fois, donc le premier jour, donc j'ai eu l'opportunité de travailler avec une radio, donc c'est leur FM, qui m'ont bien ouvert les portes. C'est le parrainage de ma gamine et républicain Lorrain de Meurthe-et-Moselle. Donc j'avais prévenu la mairie, j'avais prévenu le commissaire de police. Donc le 18 avril, je mets sur le parvis de la mairie, donc j'avais prévenu le maire, comme quoi j'étais là à 9h. J'avais prévenu mes employeurs parce que s'il m'arrive quelque chose. J'avais fait tous les papiers qu'il fallait pour qu'il y ait aussi quelque chose. Les enfants étaient au courant. Le jour-là, donc, ma fille avait déjeuné avec moi. C'était mon dernier déjeuner avec elle. Et à 9h, je me présente devant la mairie. J'avais un collègue, Jean-Victor, que je remercie beaucoup, qui était là le premier jour, qui m'a soutenu beaucoup, comme d'autres personnes. Le maire était là, donc on expliquait les choses. Et par un moment, à 9h pile, fonctionnaire de police. Comme par hasard, à 9h pile, ils sont là. Enfin bref, c'est pas grave. Je me suis levé de la chaise. Donc j'ai dit, bon voilà, vous savez que je vais faire la grève de la faim, vous êtes au courant. Je dis, écoutez, si vous voulez vous embarquer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre les menottes, comme ça je verrai le procureur, parce que j'ai demandé plusieurs fois d'avoir le procureur, aucune réponse de leur part. Et ça, c'est inadmissible. Je dis, non, monsieur, il n'y a pas de problème. Donc ça a duré pendant 4 jours. Donc c'était bien oui et non, parce que je me croyais le clown de service. Parce que vous savez, demain, vous avez un gros truc comme ça, en tant que père de famille, vous n'êtes pas connu hein, au niveau des médias, tout le monde vient. Et j'ai l'impression d'être à Cannes. Il y a eu des flashs partout. C'était le jour du marché, le samedi, donc j'avais bien ciblé la situation de la mairie. C'était l'État, le maire était au courant, j'avais fait ça dans l'égalité, et je voulais me faire entendre. Pas mal de gens sont venus me voir, pas mal de collégiens sont venus me voir aussi. Donc je leur ai expliqué le cas, et puis ils me disent « c'est pas possible ». Donc les médias sont venus par rapport à RTL et tout ça, qui ne sont jamais venus avant parce que je les avais appelés, mais j'ai jamais eu aucun secours de ça. Donc j'étais en colère par rapport à ça, parce que j'ai dit « il faut quelque chose de grave pour qu'ils interviennent ». Donc pendant 4 jours, j'ai fait la grève de la faim, j'ai reconnu pas mal de gens. Il y a eu 66 minutes qui sont venus me voir pour faire un reportage. Donc ça, j'écoutais pour l'instant, on se met en stand-by, on verra après. J'ai eu Madame la députée, Madame Fiat Caroline, qui est venue me voir pour cette affaire-là. J'ai dit comme par hasard. Hein, j'ai dit, est-ce que c'est pour la photo ou est-ce que c'est pour le fun? J'en parlerai un peu plus tard à la fin. Et finalement, donc je suis resté 4 jours là-bas et j'en ai bavé. Je lui ai dit, franchement, j'en ai bavé. J'ai eu peur parce que, j'ai dormi sur le parvis. J'avais mis une toile de tente. Les gens étaient courtois. Les gens étaient... C'était une famille qui était là. J'avais fait une pétition. Donc, il y avait plus de 17 000 à 20 000 personnes qui ont signé la pétition.
Combien ?
17 000 à 20 000 personnes qui ont signé une pétition pour ces agissements-là. Je vous dis que ça a fait le bordel à Gerny, quoi. Ça fait le bordel là où j'étais à Gerny.
Oui, mais normal,
voilà.
Normal.
Voilà quoi. Mais j'étais en détresse. Je ne savais plus quoi faire. Je pensais voir quelqu'un de procureur ou quelqu'un de dire, bon voilà, on se met à une table, on discute, on trouve des moyens pour trouver une solution. Mais je ne peux pas laisser ça comme ça, quoi. Je ne pouvais pas. Donc finalement, les 4 jours sont passés. Et comme par hasard, parce que je vous ai dit tout au début qu'il fallait attendre 24 à 36 mois, eh ben, le 17 mai 2018, je passe en cour d'appel.
D'accord.
C'est la Joséphine Engargien, comme on dit. Mais je me suis dit, c'est bien pour moi, mais il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation et que je leur ai volé la place. Mais c'est malheureux d'en arriver là, quoi.
Complètement. Il ne nous reste plus que 8 minutes, Francis. Oui.
Donc finalement, donc, le monsieur donc, a été en cour d'appel. Donc, il a recondamné toutes ces personnes-là. Enfin, il a été recondamné.
À combien ?
Et donc, à la même chose. Toujours à la même chose. Toujours à la même chose. Mais il a demandé la cassation.
C'était un acharné, celui-là, quand même.
Voilà. Donc il a demandé la cassation, donc je vous dis, bon, on va aller vite fait, bien fait. Donc il a demandé la cassation, donc on a attendu pratiquement un an. Il faut que la cassation, il faut dire que la cassation, ça coûte 5 000 à 6 000 euros pour une personne, hein, pour moi.
Pour vous,
c'est cher, hein.
Pour vous aussi.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais.
Même si c'est lui qui demande.
Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Si moi je fais un mémoire de cassation, ça va à 5 000, 6 000 euros par mois, pour le mémoire de cassation, parce que c'est des avocats de haute cour de Paris. Ça, c'est cher, hein.
D'accord.
Et finalement, quand j'ai reçu la cassation, ils ont cassé mon jugement pour une erreur de plume. Donc c'était le huis clos qui n'avait pas été notifié. Donc c'est une erreur du juge, du procureur, du greffier ou des avocats. C'est pas la mienne. Voilà.
Et lui, il a été acquitté. Ah, donc, non-lieu pour lui.
Non, 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 attendez.
Non.
Et lui, il a été relaxé.
Ah bah oui, c'est ce que je vous dis.
Et oui. Alors, vous savez, la colère que j'ai entre la justice, parce que c'est incroyable. On écrit à des gens comme ça, je veux dire. On peut leur faire confiance, que ce soit commissaire de police. C'est des gens qui sont normalement professionnels, que ce soit procureur, que ce soit juge et tout ça. J'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons. Mais l'ADN, finalement, qui est dans le froc de ma gamine, on en fait quoi? Parce que l'ADN, s'il n'y avait pas les preuves, l'affaire n'aurait pas débuté. Là, il y a l'ADN dans le pantalon. Il faut savoir que ma gamine portait un pantalon. Pour avoir l'ADN dans le pantalon, il faut aller écarter le pantalon. Quand monsieur a été condamné en correctionnel et en appel la première fois, ses juges, ses procureurs, tout ça, ils n'ont rien à faire dans la magistrature, finalement. Puisque finalement, comme on dit, c'est pas les mêmes écoles. Alors finalement, il y aurait peut-être 5 ou 6 interventions au niveau tribunal, chacun donne son opinion, mais on trouvera jamais la suite ou la bonne décision. Et quand on me dit le huis clos non notifié, qu'on appelle ça une erreur de plume, si c'est pas une erreur de plume, c'est une erreur professionnelle. Et quand j'envoie du courrier à la cour d'appel de Nancy, mais qui est-ce qui a fait ça? Aucune réponse de leur part. C'est quand même incroyable.
Oui, incroyable.
Quand j'entends M. Macron, entendre une guillemets, on vous croit, la honte aujourd'hui change de camp, a déclaré le chef de l'État. Hein, on est là, on vous écoute, on vous croit, vous ne savez plus s'allumer seul, je fais des bons de 15 mètres. Parce que le président, j'ai écrit à M. Macron, j'ai écrit au procureur, j'ai écrit à M. Dupond-Moretti. Et vous savez ce qu'on me dit? Il faut voir tout ce qui est, aide aux victimes. Mais eux, ils peuvent rien faire.
Et non, il n'y a pas de jugement.
Eh ben voilà.
Ben oui.
Et quand ils nous disent qu'il y a une séparation de pouvoir, il ne faut pas oublier que, bon, là, moi, je suis monté à l'Assemblée nationale il n'y a pas longtemps de ça. J'ai été voir ces députés. Sur 570 députés, il y en a 4 qui m'ont répondu. Monsieur Jean Lassalle, Monsieur Jean Lagarde, Monsieur Questel, la ministre des Sports qui m'a reçu. C'est incroyable. Vous savez, je suis rentré dans l'Assemblée nationale. On m'a fait rentrer par rapport avec ces 4 personnes qui étaient simples, qui étaient bien. Il ne faut pas oublier que ces gens-là votent des lois. Pourquoi qu'ils ne convoquent pas les victimes avant? Pourquoi, comme on dit, quand il y a des problèmes comme ça, il faut des enveloppes pour ces victimes-là? Ça coûte cher, c'est pour ça que les gens n'auront plus. Pourquoi qu'au commissariat, on n'écoute pas ces gens-là? Et vous savez, je veux dire une chose aussi, que bon, là, j'ai fait un livre, c'est le combat d'un père pour Emma. C'est l'histoire de tout ça. J'ai écrit un livre, c'est pour ces victimes. J'ai fait pas mal de choses. J'ai été faire des écoles aussi, pour le harcèlement et les agressions.
Comment va Emma aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de SMS qui vont dans ce sens.
Emma, pas très bien. C'est moi qui va mal. Parce que je n'accepte pas l'échec. Je n'accepte pas cette justice.
Non,
qui a deux vitesses.
Emma doit se sentir totalement niée dans tout ça.
Ah oui, oui, bien sûr.
Parce qu'il n'a pas été condamné. Il est toujours à côté de vous.
Bien sûr. Mais ce qui la sauve aussi, c'est qu'il a été condamné 2 fois. Emma, ce qui en est sorti, c'est que j'ai écrit un livre. Elle l'a lu, le livre. Et si j'avais raconté Le combat d'un père, c'est l'édition Maya, c'est pas pour faire la publicité, c'est que le livre, ça lui a fait beaucoup de bien. Et quand les gens prendront ce livre, entre guillemets, ils ne sont pas obligés de le faire. Mais quand j'écris ce livre, c'est pour tout le monde. Je ne parle pas pour ma fille, je parle en tant que père. Je parle aussi pour c'est Boutchou. Je parle aussi pour ces femmes qui vont au commissariat de police qui ne sont pas entendues. Je parle aussi de tout ce qui est juridique. Vous savez, j'écris à M. Dupont-Moretti, mis en examen aussi. Regardez, M. Nicolas Hulot, on n'en parle pas trop, mis en examen. Regardez aussi, on en parle aussi, là, qu'on appelle ça, il y avait aussi une patineuse, elle a été violée aussi. Mais tous ces gens-là se font entendre. Mais nous, en tant que victimes, heureusement que votre émission est là, je veux dire, Olivier. Et je vous dis, franchement, je suis fier de vous, de ce que vous avez fait. Franchement, à toute l'équipe, parce qu'on est entendu. J'espère que maintenant, il y aura du retour. Et j'ai envie d'envoyer des messages, Olivier. Monsieur Macron, je veux dire, j'espère qu'il m'entend, tous ces députés. Pourquoi vous ne recevez pas des gens à l'Élysée? Parce que les gens à l'Élysée, c'est tout des hautes proximités. Moi, en tant que victime, j'étais à l'Assemblée nationale, monsieur Macron, et où à monsieur Dupond-Moretti. J'ai fugé une semaine devant l'Assemblée nationale. Il n'y a personne qui est venu. Vous ne croyez pas que ça m'aurait fait du bien? Et j'écris même à madame Macron par rapport à tout ça. Alors, parce que madame Macron, elle sait, elle a des enfants, madame Macron. Hein,
Francis,
s'il y aurait eu ce sujet-là.
Francis, oui, on a bien entendu tout ce que vous avez fait. On va marquer une dernière pause. On va laisser passer l'info et puis on va conclure après, d'accord?
Voilà, je vous remercie beaucoup, Olivier. Hein. Merci. Oui.
Il est minuit, passé de 7 minutes, et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1. Vous pouvez composer le 39 21 50 centimes d'euros la minute ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Nous sommes avec Francis qui nous conte son long combat suite à l'agression sexuelle de sa petite fille Emma. Francis qui nous raconte ce long parcours judiciaire pour arriver, comme vous nous l'avez dit, Francis, à la cour de cassation après que l'agresseur de votre fille ait été condamné à 2 reprises en première instance, puis en appel, et pour voir cette condamnation annulée purement et simplement à cause de l'erreur, alors, soit d'un magistrat, soit d'un avocat, soit d'un policier, en tout cas... malgré le fait que vous soyez les victimes dans toute cette affreuse histoire, on n'a pas pris le temps de vous expliquer quoi que ce soit, ce que, bien évidemment, nous trouvons est regrettable et incroyable. Vous nous disiez avoir été voir des députés, avoir écrit au président de la République, avoir écrit à Madame Macron.
Tous ces gens-là, puis qui votent les lois, c'est ça que je veux dire, les députés vont y voter des lois, entre guillemets. Donc, je vous dis, moi, je suis monté devant l'Assemblée nationale, on me regardait comme un lapin de 6 semaines, hein. Je vous dis, franchement. Et pourtant, c'est des gens, entre guillemets, je vous dis, il y a une colère, c'est incroyable quand même, parce que c'est des gens qui votent des lois, entre guillemets, qui doivent recevoir, qui doivent être à l'écoute, et on vous regarde, bah, comme une merde, quoi. Mais je vous dis, j'ai passé une semaine, j'ai dit, mais c'est, qu'est-ce que c'est ce travail, quoi? Il n'y a que 4 personnes qui sont venues me voir sur 570 quand même. Et j'ai madame Fiat Caroline, qui est pas loin de la Meurthe-et-Moselle, Moselle pas loin de chez moi, qui n'est même pas venue me voir. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce travail? Alors finalement, de tout ce qu'on voit à la télé, c'est pas la petite maison dans la prairie, c'est quand même la réalité. Demain, on parle d'un monsieur ou d'un député. Vous savez, excusez-moi, je parle un peu fort aussi, vite. La vitesse, la justice a du vitesse. Mais c'est quand même incroyable. On parle de monsieur Nukadoyo. Regardez la baffe que monsieur Macron a pris. Il a été condamné. On parle aussi de Sarah Abibol, l'ex-patineuse. Elle fait partie de l'équipe de France. Mais nous, je veux dire, en tant que citoyen, je veux dire, en tant que même ouvrier, parce que moi je suis ouvrier, j'ai pas peur de le dire, on ne nous reçoit pas. On ne nous reçoit pas. Et ces gens, entre procureurs, que ce soit M. Macron, qui reçoit des hautes personnalités, moi ce que je demande à M. Macron, recevez-moi, il a bien reçu 2 personnes, 2 youtubeurs au niveau du Covid. Il ne peut pas me recevoir. Ça dure 10 minutes. Et vous savez pas, ça va me faire un bien pas possible. Je vais dire les choses comme elles sont. Je sais que M. Macron, peut-être qu'il n'a pas d'enfant. Mais s'il aurait un enfant, je veux dire, ça serait passé comment? Mais il y aurait les people mis du haut jusqu'en bas. C'est la première page.
Ah, vous savez bien que ça ne se passerait pas de la même manière.
Eh ben voilà.
Évidemment, et vous Francis.
Et voilà, c'est ça que j'essaie d'expliquer les choses. Parce que bon, toutes les gens qui, c'est des pauvres gens, je dis, j'en ai vu pas mal, des gamins, qu'est-ce qu'on fait? Et ça manque d'enveloppe, parce que quand vous êtes victime de quelque chose, il prend des avocats, les assurances ne marchent pas, c'est ça le problème. Et vous savez, je vais dire une chose, les associations, on parle d'associations, il n'y a personne qui m'a aidé, à part une. Association SOS Viol Enfance. C'est Katia Debrignon, je pense que vous la connaissez, c'est l'auteur d'un livre, Les larmes dans les yeux, la femme aux cicatrices. Et c'est une émission tous les derniers jeudis du mois. Et c'est des gens qui vous aident. Il y a des journalistes, il y a des psychiatres, il y a des avocats, entre guillemets, qui travaillent gratuitement pour ces gens-là. Et moi, c'est ce que je recherche. Parce que si demain je porte plainte contre l'État, il faut un avocat. Est-ce qu'il y aurait un avocat là qui pourrait vous contacter? On dit, voilà, Francis, on met tout à zéro et on va faire un bordel pas possible. Parce que moi, je n'avale pas la pilule.
Je comprends. Là, finalement, vous n'avez plus de recours au niveau de la justice, on est d'accord?
Ah non, non, non. Vous savez, le fait que j'ai fait, entre guillemets, ce livre, ben oui, non, il n'y a plus de recours. Et puis, on m'écrase. Vous savez, je pars partout à droite, à gauche, parce que bon, j'ai été chez Morandini, j'ai fait 66 minutes, j'ai fait des écoles. J'ai pas peur d'aller au devant, comme on dit. Mais c'est une tristesse. C'est incroyable, quoi. Et c'est des gens, entre guillemets, qui votent des lois et qui n'en ont rien à foutre.
Oui.
Et demain, monsieur Olivier, vous êtes père d'enfants, je dis, attention, je n'accable personne, hein. Je dis franchement, hein, tant mieux pour vous, je dis, hein. Eh ben, vous êtes sûr que vous êtes, les portes sont ouvertes pour vous. Puis, hein, monsieur Cyril Hanouna, c'est pareil aussi. J'ai envoyé du courrier à monsieur Cyril Hanouna. Regardez l'émission, pourtant, c'était une belle émission. Mmh. J'ai été jusque dans son studio, entre guillemets, remettre un courrier à monsieur Hanouna. J'ai dit, voilà, est-ce que tu peux me recevoir? J'ai envie de parler comme votre émission. Et surtout, Olivier, ne changez pas votre émission, elle est formidable. Formidable. Et ne changez rien. Franchement,
oh non, mais...
ouais. Eh ben, j'ai jamais été reçu. Qu'est-ce que c'est? C'est ça qui est écœurant. Et la plupart des victimes, ils sont paumés. J'ai une personne qui est policier, monsieur, qui est venue me voir. Elle habite à 30 km de chez moi. Elle s'est fait violer à Metz, police municipale. Ça fait 8 ans que ça dure. Et son chef est toujours là. Et j'ai plein de gens, monsieur, pour vous dire, qui me connaissent. Ils me disent, Francis, qu'est-ce que je peux faire? Attends un petit peu, attends que le procureur décide. Mais il faut savoir que si le procureur ne décide pas, qu'il m'est classé sans suite, il y a des recours, il n'y a pas de souci. Hein. On peut porter plainte. Mais il faut savoir qu'il faut prendre un juge d'instruction pour voir le dossier, mais il faut donner de l'argent. Et c'est 1 500 €.
Oui.
Et vous savez, quand vous avez 2 SMIG, vous avez économisé, comme moi j'ai économisé par rapport aux enfants, si les assurances ne marchent pas, c'est pour ça que la plupart des gens ne vont pas là. Ils ne peuvent pas continuer, ça revient trop cher. Rien que la cassation, vous regardez, ça revient trop cher. Et on donne l'aide juridique totale à ces personnages-là, comme mon agresseur. Où c'est qu'on va nager?
En tout cas, Francis, vous aurez été entendu ce soir sur cette antenne.
J'espère bien, je vous dis franchement, et je vous dis franchement de tout cœur, merci de m'avoir reçu, parce que ça m'a fait du bien.
Je vous en prie, Francis.
J'espère que M. Macron, entre guillemets, soi-disant qu'il a l'écoute du peuple, puisqu'on l'a voté, ce peuple, on l'a élu, ah ben, qui me reçoit. J'espère.
Écoutez.
Que dit, bon voilà, il est là, j'espère que je vais être reçu.
En tout cas, je peux vous promettre qu'on fera tout pour que votre message et votre combat arrivent jusqu'aux oreilles du président ou de ses collaborateurs, Francis.
Parce que moi, je veux pas l'écrire, moi, je veux, comme je disais, je veux arriver là. Et attention, je parle pas que de ma gamine, hein. Je parle de toutes ces victimes que j'entends depuis des années. Je suis pas seul au niveau de ma team. Si j'écris ce bouquin-là, c'est pas pour faire de publicité, parce que je m'en fous, parce que, comme je disais, c'est pour mon bien, parce que j'étais chez un psychologue et ça m'a fait du bien. Je parle pour toutes ces personnes qui sont victimes, que ce soit maman, ou gamin ou gamine. Et écoutez, comme je disais, écoutez surtout les enfants, écoutez-les bien.
Complètement, Francis, vous avez raison. Et malheureusement, hein, on sait hein, combien la justice aujourd'hui
a besoin
de moyens aussi pour que tout le monde travaille mieux. Et
oui.
Ce sera un des thèmes forts de la campagne à venir pour les présidentielles. Merci en tout cas, Francis.
Je vous remercie beaucoup de toute l'équipe. Changez rien, surtout.
Non.
Continuez votre mission. Bah, de toute façon, je vous donnerai des nouvelles. Il n'y a pas de souci. Mais franchement, merci pour moi et toutes ces victimes qui en ont besoin.
Bon,
franchement. Et j'espère être entendu par M. Macron.
J'espère
qu'il me rouvre ses portes, parce qu'il y a toujours un créneau, et qu'il m'ouvre ses portes. Parce que, bon, c'est bientôt Noël, comme on dit. J'espère qu'il me fera un beau cadeau.
Bah écoutez, vous nous tiendrez au courant, en tout cas, d'accord?
Je vous tiens au courant de tout ça, j'espère qu'il m'entend.
Ok, merci Francis.
Je vous remercie à vous.
Au revoir.
Merci.